Ben.
On s'intéressera à des problématiques de santé pour débuter. On vous présentera aussi quelques changements dans l'armée, dans la police, mais aussi sur nos routes. Et puis on reviendra sur l'interview du haut commissaire qui était avec nous hier. Et ce journal, c'est avec Valdemar Delage. Bonjour Valdemar.
Bonjour Kevin, bonjour à toutes et à tous.
On s'intéresse à l'éducation thérapeutique.
C'est un processus qui vise à donner aux malades chroniques les compétences pour gérer au mieux leur vie et leur pathologie. Alors ils bénéficient pour ça d'un apprentissage des outils nécessaires, mais aussi d'un soutien psychologique et social, ou encore d'aide pour les procédures administratives. Bref, c'est une autre façon d'aborder la maladie. Et cette méthode a fait l'objet d'un séminaire mardi organisé par la Direction de la Santé et le Centre Hospitalier, en présence de structures qui proposent à leurs patients ce nouveau type d'accompagnement. Alors au cœur des débats, la prise en charge de l'obésité, bien sûr du diabète, mais aussi celle de la psychiatrie ou encore des problèmes rénaux. Une liste de maladies pour lesquelles ce type de soins est déjà disponible, mais qui ne demande selon les professionnels de santé qu'à être rallongé. Au CHPF, 19 services seraient candidats à sa mise en place. On écoute Sandrine Vautier, cadre de santé à l'hôpital de Taonnay.
C'est un système très vertueux puisqu'il fait de la prévention tertiaire derrière. On n'est plus dans la prévention primaire, c'est-à-dire que là, on est déjà dans la maladie chronique, mais on va éviter toutes les complications qu'il y aura derrière avec cette maîtrise de la maladie, mais qui est toujours là, on est bien d'accord.
Et selon les professionnels, cette modalité de soins fait déjà ses preuves auprès des patients polynésiens, notamment au sein du service d'asthmologie du CHPF qui ne connaît aujourd'hui plus d'hospitalisation pour décompensation d'asthme. Une évolution positive qui pousse les professionnels à réclamer que l'éducation thérapeutique, qui fait l'objet d'une réglementation spécifique en métropole, s'inscrive aussi dans un cadre légal au Fénois.
Elle a besoin qu'elle soit reconnue par la loi. Pourquoi ? Parce qu'elle demande du temps et donc du coup, elle demande à ce que les structures soient reconnues même au niveau pécunier, tarifaire, hein, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des associations qui offrent l'éducation thérapeutique, mais au long cours, ce n'est pas possible. Il faut vraiment qu'il y ait cette reconnaissance. Et qui dit reconnaissance aussi législative, dit formation obligatoire, donc avec une qualité derrière au niveau de l'éducation thérapeutique qui est nécessaire.
Voilà, Sandrine Vautier, cadre à l'hôpital, qui a été au micro de Vaïtier et Gobré. L'autre souhait allant dans le sens du développement de ce soin, c'est la création d'une unité transversale d'éducation thérapeutique au sein même de l'hôpital. Elle pourrait voir le jour dès l'an prochain.
La santé toujours avec cet appel ce matin.
Oui, celui du centre de transfusion sanguine qui fait face à une situation critique au niveau de ses stocks. Le centre fait appel à la générosité des donneurs de sang et tout particulièrement aux donneurs de groupe sanguin O. Pour tout renseignement, contactez le centre de transfusion au deuxième étage du CHPF au 40 48 47 74.
L'équipage du Pré-Rial était au garde-à-vous ce matin.
Oui, au garde-à-vous pour accueillir son nouveau commandant Alexis Golnisch. Le capitaine de frégate prend la suite de François Maignan, qui n'a servi qu'une année sur le plus important bâtiment de la marine en Polynésie. Mais une année très riche, plus de 160 jours en opération extérieure du côté d'Hawaï, de l'Amérique latine, puis de la mer de Chine et même du très tendu détroit de Taïwan. Affecté à Toulon, l'ancien Pacha a adressé avant de partir un rapport à ses supérieurs pour vanter les capacités du Pré-Rial et de son équipage.
Oui, le bateau, il a 30 ans. Oui, le bateau, il a des équipements qui sont parfois un petit peu obsolètes, mais ça reste quand même un formidable vecteur de rayonnement sur le théâtre et un formidable outil de coopération, puisque on a coopéré avec une grande partie des nations riveraines du Pacifique. Et puis, il y a des avancées. La liaison 22, qui est une liaison de données tactiques, on a aussi un nouvel hélicoptère. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui avancent. Donc oui, c'est pas un bateau de dernière génération, mais on peut encore faire beaucoup de choses quand l'équipage est pleinement engagé.
Et de son côté, Alexis Golnisch n'arrive pas en terrain connu puisqu'il a déjà servi en Polynésie à bord du Bougainville et déjà du Pré-Rial, c'était il y a 7 ans. Alors sa prise de commandement ce matin s'est faite à terre, à la base navale, plutôt que sur la frégate de surveillance, puisque le navire de 94 mètres de long est en maintenance sur le dock flottant.
Alors le bâtiment est rentré effectivement en arrêt technique, c'est quelque chose qui intervient régulièrement, tous les 3 ans il y a un grand arrêt technique, et c'est ce qui va nous permettre de revoir le bateau, d'inspecter, de réparer, de faire des visites de moteur, pour que nous puissions retrouver tout le potentiel d'emploi du Pré-Rial et que nous puissions ensuite revenir accomplir nos missions. Je vais voir avec l'état-major interarmé les missions qui sont prévues pour nous, mais il y a des grandes chances que ce soit dans la continuité de ce qui se faisait auparavant, c'est-à-dire des missions de coopération militaire régionale.
Alexis Golnisch, le nouveau commandant de la frégate Pré-Rial et de ses 100 marins. Donc ce soir, une autre passation de commandement est organisée, mais cette fois par le RSMA. Le chef de corps Fabrice Avenel laissera sa place au colonel Frédéric Gerlinger, avec au programme une revue de troupes et un défilé des volontaires. Ce sera à partir de 16h45 au parc Veilleraye.
Du mouvement dans la police nationale également.
Oui, Emmanuel Méricam a pris lundi ses fonctions de directeur territorial adjoint de la police nationale, une fonction temporaire puisque cet ancien enquêteur de la PJ qui a passé son concours de commissaire par la voie professionnelle et était sorti major de promo, eh ben, il a vocation à devenir le grand chef de la DDPN, un remplaçant pour Mario Banner donc, qui avait été écarté depuis la fin mai après des accusations de harcèlement en interne, mais qui est aujourd'hui officiellement en arrêt maladie. Emmanuel Méricam, qui est aussi passé par la police aux frontières, par l'outre-mer, aux Antilles ou par les directions parisiennes, doit donc donner une nouvelle dynamique à la police. Un recrutement est en cours pour trouver son futur adjoint.
Et deux ministres vont venir nous voir.
Oui, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, Gérald Darmanin, l'a dit hier en clôture du comité interministériel aux Outre-mer. Il sera en Polynésie le 15 août, en compagnie de la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra. À Tehaupo, ce sera notamment l'occasion de faire un point sur les avancées des travaux nécessaires à l'organisation des épreuves olympiques de surf. Les ministres qui pourraient également se rendre aux Marquises et sur l'atoll de Ho, un programme à valider avec le haut-commissaire.
Et justement, le haut-commissaire était sur notre plateau hier.
Oui, invité de la rédaction hier midi, Eric Spitz a tenu d'abord à rassurer sur l'organisation des Jeux, qui serait selon lui sur de bons rails, maintenant que tout le monde, du pays à l'État en passant par le comité Paris 2024, est sur la même longueur d'onde. L'État assure la sécurité des sites et participe au financement avec 870 millions de francs déjà investis. Tour des Juges, Passerelle, Marina, Village, le Auxerre ne s'inquiète pas pour les chantiers, mais plutôt du regard des riverains sur cette organisation.
Là où je trouve que ça pêche encore un peu, c'est l'acceptabilité des riverains qui augmente. Il y a quand même 350 familles qui vont héberger et consigner des baux pour loger les athlètes. Il y a déjà une répercussion sur le chiffre d'affaires des restaurants de Tairapu Ouest, alors qu'on est un an des Jeux Olympiques, certains ont quasiment doublé leur chiffre d'affaires. Mais moi, je plaide pour qu'on installe une maison des JO et que les habitants de Tairapu Ouest ne voient pas finalement des gens venir le matin et repartir l'après-midi.
Eric Spitzky est aussi revenu sur ses discours du 29 juin et du 14 juillet, des discours dans lesquels il louait la relation forte et la valeur commune de la Polynésie et la France, mais dans lesquels il revenait aussi sur les ombres et le choc de la colonisation. Déculturation, mépris d'une civilisation, les mots sont forts et marquent pour certains un tournant. Le Tavigny espère notamment que ses discours au ton nouveau se traduiront par un changement de la position de la France à l'ONU sur le dossier polynésien. Le haut-commissaire n'a pas la main sur ce dossier, mais prévient que la position de Paris est pour l'instant nuancée.
J'ai lu une note du Quai d'Orsay qui est très balancé sur le sujet. Je ne sais pas quelle sera la décision qui sera prise par l'État au mois d'octobre. Elle sera sans doute pas irrémédiable, hein, quoi qu'il arrive. C'est pas parce qu'on ne siège pas, par exemple, au mois d'octobre 2023, qu'on ne siégera pas au mois d'octobre 2024. Je crois aussi qu'il faut qu'on clarifie nos responsabilités respectives dans le domaine international, puisque l'État a accepté que la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie siègent dans le Forum du Pacifique, et qu'à ce titre, ils puissent s'exprimer, mais seulement à ce titre.
Et autre rendez-vous important des prochains mois pour le Haut-Saria et le gouvernement, la renégociation des conventions sur le développement, la santé, la culture ou le sport. Presque toutes les politiques publiques du pays sont concernées par ces conventions qui fixent la participation de l'État. Et Eric Spitz ne s'attend pas à beaucoup d'accrocs dans les négociations. Il dit avoir une très bonne relation avec Moetei Brotherson, mais il a tout de même voulu mettre en avant certains dossiers prioritaires.
J'aimerais bien qu'on construise avec le pays un modèle de construction de logements sociaux intermédiaires qui manque cruellement. Et donc, j'en ai encore parlé ce matin au président, il va falloir travailler avec la Caisse des dépôts et sans doute aussi modifier des lois de pays, notamment celles qui permettent de revendre les logements au bout de 5 ans, c'est beaucoup trop court. Et il faudra que le pays accorde sa garantie aussi auprès de 60 ans de la Caisse des dépôts et consignations, mais ça peut avoir un effet levier considérable et on peut multiplier par 3 ou 4 le nombre de logements construits.
Voilà, vous pouvez retrouver toute l'interview d'Eric Spitz, invité de la rédaction hier, sur notre site radio1.pf et sur notre page Facebook. Il répondait aux questions de Charlie René.
Et on parle désormais de la valse des infrastructures routières dans la zone du Méridien.
Pour tenter de lutter contre les embouteillages monstres que connaissent les automobilistes de la côte ouest, Jordi Chan, le ministre des Grands Travaux et de l'Équipement, avait annoncé au terme de la réunion publique organisée en début de mois à la Pointe des Pêcheurs que de nouvelles conditions de circulation allaient être envisagées. Alors 2 semaines après cette annonce, les premières mesures vont être appliquées. Dès ce vendredi matin, l'accès au giratoire du Méridien sera fermé aux véhicules venant de Paéa. Les automobilistes qui jusque-là avaient le choix devront obligatoirement emprunter la bretelle de contournement. Une solution qui, selon le ministre, devrait permettre de diminuer les files file d'attente des véhicules venant de Paea, ralentis par ceux qui passent par le giratoire et qui doivent attendre pour laisser la priorité. Autre changement qui devrait là aussi fluidifier les flux, mais aux heures de pointe de fin de journée, une restriction de l'accès à la route menant à l'arrière de l'ex-hôtel Méridien va être appliquée. Les automobilistes impatients qui empruntaient cette route pour contourner le bouchon et arriver plus vite au giratoire, ils ne pourront plus le faire puisque l'accès sera réglementé par un sens interdit sauf riverain. Ces nouvelles mesures seront évaluées durant quelques semaines avant la rentrée scolaire et sont susceptibles d'être ajustées si nécessaire.
Et en mer, pour finir, il y a trop de whale watching au Fénois.
Oui, c'est le message du gouvernement. La direction de l'environnement ne devrait pas créer de nouvelles dérogations cette saison, malgré des demandes en hausse, et va même se montrer particulièrement stricte sur les renouvellements accordés aux prestataires qui permettent de s'approcher des baleines. Seuls ceux qui ont respecté à la lettre les règles de forme du renouvellement obtiendront leur dérogation cette année. Avec 29 professionnels, le gouvernement considère qu'ils sont trop nombreux, notamment à Moréa, mais aussi à Tahiti ou Bora. Il s'agit de limiter les nuisances pour les cétacés. Voilà pour ce journal. Le retour de l'actualité, ce sera à 16h avec un flash.
Merci beaucoup, Valdemar.